Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Poursuite de la catéchèse de Benoît XVI sur le Credo, le pape est revenu lors de l'audience générale sur le Créateur du ciel et de la terre, livrant sa réflexion sur le début de la Genèse. Le Conseil pontifical pour la culture se penche sur les cultures émergentes des jeunes, objectif apprendre à mieux les connaître afin de communiquer facilement avec eux et de répondre à leurs aspirations. Une malgache présente à l'Assemblée plénière du Conseil nous racontera que les besoins des jeunes sur la Grande Île sont très loin de ceux des Occidentaux. Les abus sexuels sur mineurs, le nouveau promoteur de justice du Saint-Siège a réitéré sa volonté de travailler en toute transparence un an après le symposium historique qui s'était tenu sur ce sujet douloureux. Les civils d'Alep en Syrie souffrent de plus en plus de la poursuite de la guerre. Monseigneur Antoine Audot, évêque chaldéen d'Alep et président de Caritas Syrie, nous décrira le calvaire enduré par ces populations. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Benoît XVI a donc poursuivi mercredi matin à la salle Paul VI au Vatican sa catéchèse sur le Credo. Après avoir médité la semaine dernière sur le caractère de Père Tout-Puissant, le pape s'est penché cette fois sur le deuxième qualificatif donné à Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Un qualificatif donné dès le début de la Bible et de citer le premier verset de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Benoît XVI a, comme tous les mercredis, résumé sa catéchèse en français.
Chers frères et sœurs, comme l'affirme notre credo, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Sa toute-puissance se manifeste dans la beauté de la création. Loin d'être un manuel de sciences naturelles, la Bible veut nous faire comprendre la vérité profonde de toutes choses. Ainsi, le livre de la Genèse montre que le monde n'est pas un ensemble de forces opposées, mais il a son origine et sa stabilité en Dieu. L'homme et la femme, créés à l'image et la ressemble de Dieu, sont le chef d'œuvre de la création. Voilà la plus profonde raison de l'inviolabilité de leur dignité. En agissant contre son Créateur, l'être humain agit contre lui-même. Il renie son origine, se substitue à Dieu et refuse sa finitude et les limites du bien et du mal. La jalousie et la haine entrent dans son cœur. Les récits de la création font comprendre que le péché originel est la destruction de la relation avec Dieu et par conséquent avec les autres. Tout être humain entre dans un monde marqué par des relations perturbées. Seul Dieu peut le sauver de cette situation. Par son amour, Jésus, qui est le nouvel Adam, le Sauveur, rétablit la relation entre Dieu et l'être humain. Par lui, la croix devient le nouvel arbre de vie.
Et à l'issue de l'audience générale, le pape, comme c'est désormais de coutume, a envoyé un tweet relatif à sa catéchèse. « Tout est don de Dieu, c'est seulement en reconnaissant cette dépendance vitale du Créateur que nous trouverons la liberté et la paix. » Le Vatican se met à l'écoute des jeunes. Ce mercredi, le Conseil pontifical pour la culture ouvre son assemblée plénière. 4 jours de travaux consacrés aux cultures émergentes des jeunes. Une initiative du cardinal Ravasi, président du Conseil, qui souhaite aujourd'hui recréer en fait du lien avec les jeunes. Car le chef de dicastère l'a lui-même reconnu la semaine dernière lorsqu'il a présenté son initiative. La transmission de la foi à la jeunesse est une mission difficile. Pendant ces 4 jours, il s'agit donc d'apprendre à mieux connaître les jeunes afin de communiquer facilement avec eux et répondre à leurs aspirations. Des conférences analyseront leur alphabet émotionnel, d'autres présenteront ce qu'ils lisent, écoutent ou regardent, ou la manière dont ils communiquent entre eux et avec le monde. Mais bien sûr, pour que cette initiative soit crédible, il fallait que des jeunes soient eux-mêmes partie prenante de ces travaux. Et c'est le cas de Faratsu Miaj Bemazak, Elle étudie à Florence, elle vient de Madagascar. Elle nous raconte que les besoins des jeunes sur la grande île sont très loin de ceux des Italiens, que sa foi a été mise à rude épreuve, en fait, quand elle est arrivée à Florence.
Pour moi, ce n'était pas facile l'impact quand j'arrivais ici. Parce que là, à Madagascar, on a notre croyance, la tradition aussi, ça prédomine encore. Et alors ici, quand j'arrivais ici, c'était quand même un choc parce que généralement au Malgache, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Et pour moi, de confronter avec les jeunes ici qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu ou bien où ils... Mais moi, je pense que aucun jeune ne croit en soi-même. Je ne pense pas à ça. Parce que si tu cherches quelque chose de la positivité, ça veut dire que tu es à la recherche aussi de Dieu, de l'absolu. Et c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Et bien sûr, je dois connaître aussi ma culture afin d'affronter les autres, non? Même si je ne dois pas poser des questions à chaque fois que est-ce que tu crois en Dieu ou pas. Non, je crois aussi à l'humanité que cette personne a, non? C'est ça qui m'a beaucoup aidé.
En Europe, évidemment, il y a beaucoup de sécularisation, etc. Il y a beaucoup moins de gens qui croient en Dieu, beaucoup de gens qui sont indifférents. On mise sur le numérique. Comment tu perçois ça et de quoi vous auriez besoin, vous, les jeunes de Madagascar?
Bien, on a besoin de rester nous-mêmes, quoi. Je sais pas.
Ça veut dire quoi? T'as peur que l'Occident ait une influence sur votre propre croyance?
Ben, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de l'Afrique, qui se perdent. Parce qu'on est encore, soi-disant, une complexe d'infériorité, non? À cause de la colonisation ou bien de l'imposition des Occidents, comme ça. C'est sûr que quelqu'un peut avoir l'influence des Occidentaux, mais je pense qu'il faut être forte, non? Pour il faut connaître soi-même, non? Par exemple, moi, je reconnais en toute personne que celle-là, c'est l'une des croyances de Madagascar, non? Des Malgaches. Je te considère comme mon autre bras. Alors, si je fais mal à mon autre bras, tu te fais mal aussi. Alors, il faut avoir cette idée-là de rester soi-même, quoi.
Mais du coup, tu penses que l'Église doit encourager les jeunes comment? Il faut aider les jeunes à croire en eux-mêmes, c'est ça?
À croire en eux-mêmes ne suffit pas. Mais il faut aussi croire aux valeurs de l'humanité. Parce que ce monde qu'on vive en ce moment, c'est moins cette humanité-là. Et alors, il faut encourager les jeunes de développer en eux-mêmes cette humanité vers les autres.
Mais il y en a besoin.
Oui.
Et par rapport au numérique, tu ne m'as pas répondu. Comment est-ce que vous vivez ça? Parce que c'est une préoccupation majeure de l'Église d'être partout sur Internet, sur Twitter.
Oui, je pense que oui, ça commence aussi. Mais dans la capitale ou bien dans les grandes villes comme ça. Mais je pense que ça n'a pas encore touché la majorité des jeunes.
C'est pas là où l'Église doit se placer, en tout cas, pour les Malgaches?
Non, je pense pas. Pas du tout, mais...
Elle doit être où, l'Église?
L'Église doit être une mère qui accompagne les jeunes, là où ils se mettent en contact, non? Et là, le numérique, c'est encore loin. Mais je suis ici pour témoigner ma forme de participation, parce que... souvent on prend les jeunes africains, celles qui reçoivent toujours les aides, mais nous on peut aussi donner. Et ben, je pense que dans un sens il faut la réciprocité des jeunes vers l'Église et l'Église vers eux.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Les abus sexuels sur mineurs commis par des membres du clergé. Mardi, l'université pontificale grégorienne à Rome présentait les actes du symposium qui s'est déroulé il y a un an sur le sujet. L'occasion de faire un point sur le travail accompli et de voir notamment où en étaient les lignes directrices que les conférences épiscopales dans le monde sont en train de préparer. Benoît XVI avait en effet demandé que les épiscopats nationaux élaborent un plan d'action pour combattre les abus. À ce jour, plus des trois quarts des conférences ont envoyé leur texte à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui à son tour a commencé à renvoyer ses commentaires et ses observations afin d'améliorer leur contenu. Le promoteur de justice du Vatican, le père Robert Oliver, originaire du diocèse de Boston aux États-Unis, un diocèse particulièrement touché par les scandales d'abus sexuels, a réaffirmé la volonté de transparence affichée par son prédécesseur, Mgr Scicluna. Thomas Chabol.
Le nouveau promoteur de justice du Vatican a été clair, sa mission doit être accomplie sous le signe de la transparence absolue. Le père Oliver se place ainsi sur la ligne tracée par Benoît XVI. Il s'agit avant tout de reconnaître pleinement les souffrances des victimes, de les écouter, de les accompagner sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. La lutte contre les fléaux des abus sexuels au sein de l'Église doit se fonder sur quatre points principaux, quatre lignes directrices au regard de l'expérience des diverses conférences épiscopales. L'assistance aux victimes, la protection des mineurs, la formation des prêtres et la collaboration avec les autorités civiles. Le symposium avait permis la création du centre de protection de l'enfance ainsi que la mise en place d'un programme d'apprentissage par Internet à destination des prêtres, religieux, animateurs, pastoraux et catéchistes. L'initiative a reçu le soutien de plusieurs dicastères de la Curie romaine. Mais le projet reste pour le moment expérimental et n'est proposé qu'à quelques pays, notamment à ceux peu fournis en structure efficace dans la lutte contre les crimes sexuels. Les résultats sont encourageants et appellent à un déploiement d'efforts constants et sur le long terme. À un an de distance du symposium, le message est clair, la prise de conscience est bien réelle et l'Église poursuit sans relâche son engagement en faveur de la vérité et de toute personne humaine.
Non, Asia Bibi n'est pas oubliée. Cette chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème risque d'être exécutée. Le cardinal Etchigaray, a publié une lettre ouverte au président pakistanais, Asif Ali Zardari, afin de lui demander un geste de clémence en faveur de cette mère de 5 enfants. L'archevêque émérite de Marseille participe ainsi à la campagne de soutien à Asia Bibi du quotidien italien Avenire. Au cours de ma longue vie, j'ai longtemps œuvré pour que chrétiens et musulmans vivent comme des frères, affirme ainsi l'ancien président de différents dicastères de la Curie romaine et organisateur notamment de la Grande Rencontre d'Assises en 1986. L'islam, poursuit-il, avec plus d'un milliard de fidèles, représente avec le christianisme le patrimoine religieux le plus considérable que l'humanité ait jamais élaboré. Aussi, aux yeux du haut prélat, les fidèles des deux religions ne peuvent continuer de s'opposer et de s'ignorer les uns les autres. Un geste de votre part, Monsieur le Président, écrit encore le cardinal français, aurait une énorme signification et serait un grand élan pour le dialogue et la réconciliation entre chrétiens et musulmans. La réconciliation entre Syriens, on en est très loin. Le chef de l'opposition syrienne a renouvelé son appel au dialogue avec Damas. Ahmad Moaz al-Khatib veut négocier une transition politique. Il a d'ailleurs invité Bachar al-Assad à épargner à la Syrie davantage de souffrances. Il a proposé ainsi d'ouvrir des négociations avec le vice-président Farouk al-Sharrah comme représentant du régime de Damas pour chercher une issue au conflit meurtrier dans le pays. Le régime de Bachar al-Assad n'a toujours pas réagi officiellement à cette ouverture. Le quotidien proche du pouvoir Al-Watan a estimé que malgré son importance politique, l'offre arrivait avec 2 ans de retard et ne suffisait pas pour que M. Khatib soit considéré comme un négociateur acceptable. Pendant ce temps, les combats, eux, se poursuivent. Tous les jours, les violences continuent de faire des morts à travers le pays. La ville d'Alep est particulièrement touchée. La population vit dans la terreur et l'angoisse, selon Mgr Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep et président de Caritas Syrie. Manuela Figi l'a interrogé sur la situation dans la deuxième ville de Syrie. Il était en effet à Rome à l'occasion du synode de l'Église chaldéenne qui s'est tenu au Vatican la semaine dernière.
Tout d'abord, nous avons perdu la sécurité, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des francs-tireurs, il y a des voitures piégées, il y a des enlèvements, il y a des bombardements. Alors, on ne sait pas à quel moment éclatent les violences. Et cela cause une situation de pauvreté, de chômage. Les gens ne travaillent pas. Même la classe moyenne est devenue pauvre. Et en tant que président de Caritas, je passe mon temps, soit à Alep, soit au niveau de toute la Syrie, à organiser avec différents groupes l'organisation des aides aux familles les plus touchées par la pauvreté.
Justement, les aides humanitaires ne parviennent pas facilement à Alep, j'imagine. Comment faites-vous pour coordonner vos aides à la population?
Vu de l'extérieur, bien sûr, il y a des difficultés au niveau de la circulation, au niveau du transfert d'argent. Mais sur place, connaissant la situation, avec un peu d'organisation, on arrive à s'en tirer. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, pour distribuer des produits alimentaires, on en trouve. Pour acheter des couvertures, on en trouve. Pour acheter des réchauds électriques, on en trouve. Mais les prix ont augmenté, ont parfois doublé, triplé. Mais on travaille avec la situation économique telle qu'elle est. On s'adapte pour supporter les gens en difficulté.
Et qu'en est-il des aides au niveau des médicaments?
Ça devient très, très problématique, les médicaments. Commençons par dire un mot des hôpitaux. À Alep, il y avait, peut-être une vingtaine, une trentaine d'hôpitaux publics. Il n'en reste que deux au niveau de tout Alep, imaginez-vous. Donc ça, c'est déjà en soi, c'est une crise. Et puis après, les meilleurs médecins de la ville, peut-être 80% des meilleurs chirurgiens, des meilleurs médecins, sont retournés de là où ils ont étudié. C'est-à-dire ceux qui ont étudié en France, ils retournent en France, aux États-Unis, en Allemagne, ils prennent leur famille et partent. Donc ça appauvrit beaucoup, le nombre des médecins est très limité. Et aussi les médicaments se font rares et chers. D'un côté parce qu'il y a eu la destruction des fabriques de médicaments tout autour d'Alep, et d'un autre, il y a difficulté d'importer des médicaments et c'est très cher. Voilà.
Comment arrivez-vous à calmer les craintes de vos fidèles?
c'est pas facile. Je ne sais pas si je réussis à les calmer. Tout d'abord, moi je dis en donnant le bon exemple, en étant présent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'immigration. Le Saint-Père ne cesse de nous dire dans l'exhortation apostolique, il nous a organisé un synode pour les églises catholiques du Moyen-Orient, rien que pour justement rester ancré dans nos pays et donner témoignage de cette belle chrétienté. Il y a ça d'un côté, et d'un autre, on voit les gens partir les uns contre les autres. Et nous sommes dans un état d'impuissance. Je ne peux pas obliger mes familles chaldéennes à rester en Syrie, surtout après ce qu'ils ont vu en Irak, après ce qu'ils voient arriver dans les pays arabes. Donc, moi, je fais ce que je peux, donner le bon exemple, et le reste, c'est Dieu qui y pourvoira. Il verra ce qu'il fera de nos églises et de nos communautés.
Monseigneur Odo, évêque chaldéen d'Alep, en Syrie. Il était interrogé par Manuela Figi. Et pour venir en aide aux populations syriennes touchées par la guerre, l'Ordre de Malte intensifie ses interventions directes dans les régions de Damas, Alep, Hama et Homs. Il distribue des milliers de kits de survie et d'hygiène sur le terrain. L'Ordre de Malte est également présent au Liban, où un centre médico-social a été ouvert à Caldier. 10 000 personnes en tout bénéficient de cette aide de l'Ordre de Malte. Avant de se quitter, deux nouvelles. L'une en provenance de Grande-Bretagne qui dit oui au mariage pour tous. Alors que les parlementaires français poursuivent les débats passionnés et houleux dans l'hémicycle, leurs homologues britanniques se sont eux prononcés mardi favorablement pour le mariage civil entre des personnes du même sexe. Le vote a eu lieu à la Chambre des communes. Les travaillistes qui sont dans l'opposition et les libéraux-démocrates qui participent au gouvernement ont dit oui. Une minorité de conservateurs ont voté de même, mais une majorité a préféré dire non, votant de fait contre le Premier ministre britannique David Cameron, qui lui soutenait le texte. Un texte qui laisse aux diverses confessions la possibilité de célébrer ou non des unions homosexuelles religieuses, à l'exception de l'Église anglicane, une concession de David Cameron pour la religion majoritaire dans le pays. D'ailleurs, le nouveau primat de la communion anglicane, Justin Welby, a réaffirmé son opposition à ce projet de loi lundi lors de sa prise de fonction officielle dans les bureaux de Lambeth Palace à Londres. Puis, deuxième nouvelle cette fois en provenance de Cuba, la visite de Benoît XVI sur l'île sera commémorée par la construction d'une nouvelle église sur l'île. Ainsi en a décidé le conseil provincial de l'administration de la province de Santiago de Cuba, qui a par ailleurs décidé de restituer deux églises et une maison paroissiale à l'archidiocèse de Santiago. Les bâtiments avaient été confisqués dans les années 60 et étaient réclamés depuis plusieurs années. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Même lieu, même heure.